France Musique. Musicopolis. Jean de La Fontaine à l'écart de la cour. La Fontaine, comme la cigale, aime chanter. Chanter en vers, chanter comme s'il ne se souciait pas de l'avenir et ne songeait qu'à profiter du présent. Jugez-en plutôt avec l'épitaphe qu'il s'est lui-même composée. Je vous la lis. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien sut le dispenser, de part en fit, dont il avait coutume de passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Bien qu'il se soit écrit pour lui-même l'épitaphe d'un paresseux, vous vous en doutez, La Fontaine a beaucoup travaillé, beaucoup écrit. Il n'a pas composé de musique, certes, mais il a fréquenté des musiciens auxquels il a fourni des vers. Et souvent aussi, ces vers non destinés à la musique se sont retrouvés pourvus de notes.
J'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant.
Jean de La Fontaine est né en 1621, sous Louis XIII, dans l'Aisne, à 90 km à l'est de Paris, sur la route de Reims. Son père est maître des eaux et forêts et maître des chasses à Château-Thierry. Jean étudie au collège de sa ville avant de monter à la capitale faire des études de droit. À 21 ans, il appartient à un petit cercle littéraire, la Table Ronde, formée de jeunes gens de lettres. Y participent Furetières, Pélisson, Talmant des Réaux et son meilleur ami François de Maucroix. Ils s'intéressent tous à l'Antiquité grecque et latine, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ils lisent beaucoup, ils s'écrivent des épîtres en vers. L'époque de la jeunesse de La Fontaine est assez troublée, politiquement parlant. C'est la période de la Fronde. Paris est le siège de nombreux troubles et le tout jeune Louis XIV en conçoit une haine farouche du désordre et de la rébellion. La monarchie française avait commencé à changer depuis l'arrivée des Bourbons et de son grand-père Henri IV. Avec Louis XIV, le pouvoir royal va de plus en plus se caractériser par son absolutisme. Thank you. En 1649, Jean de La Fontaine obtient son diplôme d'avocat. Il est marié depuis 2 ans avec une Marie d'Héricard. C'est un mariage de raison. Elle apportait une belle dot à la famille en difficulté financière. En 1652, il acquiert la charge de maître des eaux et forêts à Château-Thierry. La Fontaine n'est pas très intéressée par sa charge de maître des eaux et forêts, et pas non plus par son épouse. Il la délaisse très vite, ainsi que Charles, le fils né de leur union en 1653. Grâce à ses amis du cercle de la Table Ronde, La Fontaine a rencontré bien du beau monde, et notamment le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. En 1658, il passe un contrat avec lui. Il recevra une pension en échange de la livraison de verre tous les 3 mois. Il participera aussi à la vie de la petite cour. Dans l'entourage de Fouquet, on trouve de nombreux artistes, peintres, poètes, musiciens, scientifiques. Son salon à Saint-Mandé, ou dans son tout nouveau château de Vaux, est extrêmement brillant. On peut y croiser, outre La Fontaine, Pélisson, Perrault, Molière, Madame de Sévigné ou le compositeur Michel Lambert.
Dans l'ouest, Tircis s'aperçut une jeune et simple bergère. Dans l'ouest, Tircis s'aperçut une jeune et simple bergère. Elle lui plut sans qu'elle sût comme il faut faire quand on veut plaire. Elle lui plut sans qu'elle sût comme il faut faire quand on veut plaire.
Jean de La Fontaine fréquente des amis musiciens et il aime la musique. D'ailleurs, cet art est alors partie intégrante de la vie des salons. Il y a toujours des musiciens, chanteurs ou instrumentistes pour divertir les réunions. Michel Lambert dépose de la musique sur les vers de La Fontaine.
Les autres dieux,
les autres dieux,
les autres dieux
font la cour et leur
À la fin des années 50, du XVIIe siècle, le principal mécène de La Fontaine est Nicolas Fouquet. Le surintendant met plusieurs années à construire son magnifique château de Vaux, pour lequel il fait appel aux meilleurs architectes, décorateurs et paysagistes du pays, le Vaux, le Brun, le nôtre. En 1661, il offre au roi et à la cour une fête splendide, d'une magnificence inégalée. La Fontaine, qui est là bien sûr, raconte à son ami Maucroix. Jamais Vaux ne sera plus beau qu'il le fut cette soirée-là. Il y eut un souper magnifique, une excellente comédie, un ballet fort divertissant et un feu d'artifice. Tous les sens furent enchantés et le régal eut des beautés dignes du lieu, dignes du maître et dignes de leur majesté, si quelque chose pouvait l'être. Pour sa fête d'août 1661, Fouquet a commandé une pièce à Molière, « Les Fâcheux », qui est donnée agrémentée d'une musique du maître de ballet Pierre Beauchamp. La Fontaine est enchantée, il adore Molière. on avait accommodé le ballet à la Comédie, raconte-t-il, et tous les danseurs y représentaient des fâcheux de plusieurs manières. On les trouva fort divertissants et ils se retirèrent trop tôt au gré de la compagnie. La fête de Vaux était trop belle. Le roi n'a pas supporté la magnificence dispensée par son ministre. La Fontaine écrit à son ami Maucroix : Fouquet est arrêté et le roi est violent contre lui, au point qu'il dit avoir entre les mains des pièces qui le feront pendre. Ah, s'il le fait, il sera autrement cruel que ses ennemis. Madame de Bellière a reçu un billet où on lui mande qu'on a de l'inquiétude pour Monsieur Pélisson. Si ça est, c'est encore un grand surcroît de malheur. Le procès de Fouquet va durer plusieurs années, pendant lesquelles son secrétaire, Pélisson, ami de La Fontaine, est emprisonné lui aussi. La Fontaine essaye de plaider pour son protecteur, mais sans succès. Et bien sûr, cette démarche n'est pas du goût du roi, mais alors pas du tout. Le poète va même être prié d'aller se faire voir quelque temps dans le Limousin. Fouquet échappe à la peine de mort, mais il restera en prison où il mourra une vingtaine d'années plus tard. Les artistes qu'il protégeait et pensionnait se tourneront vers le roi et la cour. Quant à La Fontaine, il ne rentrera jamais complètement en grâce, ou du moins ne fera jamais exactement ce qu'il faut pour cela, à savoir écrire dans le but de glorifier le monarque. Il préférera garder sa liberté dans les salons et choisir pour mode d'expression favori le conte et la fable. Pas vraiment royal.
Sur le courant, il en empire, le loup plus haut, l'agneau plus bas, était un jour par aventure bien éloigné de notre pas. D'abord le loup commence à dire, tu viens troubler l'eau que je bois. L'agneau répond, voyez, messire, quelle descente. Vous à moi, l'an passé dit la bête noire, contre moi tu t'es déchaîné. L'agneau répond, comment le croire, je n'étais pas encore né. Si ce n'est pas, c'est donc ton père, reprends le loup sur le tombeau. Comment sera ce que tu fais? Je n'en ai point. Mais que lui sert de se défendre, de quoi lui sert la vérité? Il est mangé sans plus attendre, comme s'il l'eût bien mérité. Le daignons le sort de l'innocence et le réclame par les lois. Quand la justice et la puissance contre le sort mettent à la fois.
La Fontaine, ayant perdu son protecteur en la personne de Fouquet, retrouve deux protectrices et mécènes, la duchesse d'Orléans et la duchesse de Bouillon. En 1668, il fait paraître son premier volume de fables. C'est l'époque où on parle beaucoup de l'opéra. Bien que tout le monde dise que les Français n'en veulent pas, certains s'y sont essayés. Cambert d'abord, puis Lully, qui bien sûr réussit dans ce nouveau genre, comme dans tout ce qu'il fait. En 1674, Lully se cherche un librettiste, suite à une disgrâce de Quinault, son pourvoyeur habituel de tragédies. Pendant 4 mois, La Fontaine va plancher sur une Daphné. Mais la veine délicate et pastorale de notre poète ne convient pas à l'opéra Louis XIVien. « J'introduisais d'abord des bergers, écrit-il, et le roi ne se plaît à donner de l'emploi qu'aux héros. Ces divertissements ressentent tous la guerre, ces concerts d'instruments ont le bruit du tonnerre. » Lully va rejeter le Daphné que lui proposait La Fontaine. La Fontaine jette l'éponge. Finalement, Lully revient vers Quinault, avec qui il compose un Thésée. La Fontaine n'est pas content du tout, après s'être échiné plusieurs mois. Il se venge en écrivant une petite satire intitulée « Le Florentin », puisque Lully vient de Florence. Elle ne sera pas publiée tout de suite, mais elle réjouira les quelques salons autorisés à la lire. La Fontaine raconte une pseudo-entrevue avec Lully. Celui-ci me dit « Veux-tu faire, presto, presto, quelque opéra ? Mais bon, ta muse répondra du succès par devant nos terres. Voici comment il nous faudra partager le gain de l'affaire. Nous en ferons de l'eau, l'argent et les chansons. L'argent pour moi, pour toi, les sons. Cela, joint à l'honneur de travailler pour moi, te voilà grand seigneur. » Après sa déconvenue avec Lully, La Fontaine se lance dans une querelle esthétique contre la nouvelle tragédie lyrique dans une épître adressée au chanteur Pierre de Nières, premier valet du roi. Dans son texte, La Fontaine se moque des pièces à machine, surtout quand les choses ne fonctionnent pas. Quand j'entends le sifflet, se moque-t-il, je ne trouve jamais le changement si prompt que je me le promets. Souvent, au plus beau char, le contrepoids résiste. Un dieu pend à la corde et crie au machiniste. Un reste de forêt demeure dans la mer ou la moitié du ciel au milieu de l'enfer. En 1678, La Fontaine entreprend un nouveau livret, intitulé « Galatée ». Lorsqu'il le publie, il laisse entendre que sa pièce n'a pas été mise en musique. Or, il semble bien qu'elle a été représentée avec une musique de Marc-Antoine Charpentier. L'œuvre a été donnée pendant le carnaval 1678, dans l'hôtel du procureur du roi, avec sa magnificence ordinaire, dit le Mercure Galant. Lorsqu'on sait que Lully avait alors le privilège de représenter des opéras, et qu'il ne s'en laissait pas compter.
Douze habitants de ces bois, que vos amoureux ramages s'accordent bien à ma foi. Nous faisons répondre sans foi les rochers de ce voisinage. Douze habitants de ces bois, que vos amoureux ramages s'accorde bien à ma foi. Nous faisons répondre sans foi les rochers de ce voisinage. Hélas, petits oiseaux, hélas, nous parlons un langage que ma bergère n'entend pas. Nous parlons un langage que ma bergère n'entend pas. Hélas, petits oiseaux, hélas, nous parlons un langage que ma bergère n'entend pas. Nous parlons un langage que ma bergère n'entend pas.
Une des lectures favorites de La Fontaine a toujours été L'Astrée d'Honoré d'Urfé. En 1690, 3 ans après la mort de Lully, il en tire un livret d'opéra qui est mis en musique par Pascal Colas. L'œuvre est donnée à l'Académie royale de musique et n'a que 6 représentations. Ce sera la dernière incursion de La Fontaine dans le domaine de l'opéra. Il meurt 5 ans plus tard, en 1695. Enfin, me voilà seule, un air du 3e acte d'Astrée, musique de Pascal Colas, paroles de Jean de La Fontaine. Isabelle Desrochers, soprano, avec la Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Rennes. Thank you. le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Pierre Monteil pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.